Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 10 novembre. Le parquet national financier demande au tribunal de condamner Michel Mercier à 1 an de prison ferme. L'affaire du policier percuté mortellement à Bron en 2020, Fares Djelassi a été condamné par la cour d'assises du Rhône, 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. La ville de Lyon a dû réquisitionner hier 8 agents sur le périmètre des écoles et crèches pour faire fonctionner le chauffage dans les établissements scolaires. Le jury a tranché, la ville de Lyon a choisi Yann Arthus Bertrand pour l'exploitation du chalet du parc. La ville de Lyon qui s'apprête à voter aujourd'hui une subvention de 14 000 euros en faveur de l'association SOS Méditerranée. Nous parlons également dans cette édition de la Fête des Lumières, des détails sur le programme avec Julien Pavillard, notre invité, c'est le coordinateur de cette fête.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le parquet national financier a donc demandé au tribunal de condamner Michel Mercier à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 assortis de sursis, 50 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité et 5 ans d'interdiction d'exercice de toute fonction publique. Pour les deux procureurs du parquet national financier, cette peine est à la mesure de la déchirure du pacte républicain commise selon eux par l'ancien ministre de la Justice. Le procureur demande la condamnation de Mercier pour détournement de fonds publics au préjudice du Sénat et du département du Rhône et prise illégale d'intérêt. Concernant le travail revendiqué par Joël Mercier, la justice n'a pu obtenir aucun archivage, ni bureau, ni horaire, pas d'agenda, pas de prise en charge de frais professionnels. Le parquet national financier demande au tribunal de condamner Mme Mercier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, l'estimant coupable de complicité et recel de détournement de fonds publics. Concernant cette fois-ci la fille Delphine Mercier, le procureur sollicite à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Il pointe l'absence totale de preuves matérielles de travaux, l'absence des moyens à sa disposition et l'absence de tout contact avec le Sénat. Delphine Mercier avait occupé un mi-temps d'assistante parlementaire tout en étant installée à Londres. Les plaidoiries des avocats des Merciers sont attendues aujourd'hui avant que le jugement ne soit mis en délibéré. Notez que le département du Rhône réclame aussi 106 000 euros aux Merciers, l'équivalent de sorties, dîners, courtes cuisines avec des épouses de notables lyonnais, le tout payé par le Conseil Général. Dans l'affaire du policier percuté à Bron en 2020, Fares Djelassi a été condamné par la cour d'assises du Rhône pour avoir tué Franck Labois, 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Le Vaudais de 24 ans avait mortellement fauché avec un fourgon le policier la nuit du 11 janvier 2020 sur un barrage à Bron. Le président de la cour d'assises a pointé l'intention d'homicide incontestable, l'extraordinaire gravité de ce geste, la volonté d'échapper coûte que coûte à l'interpellation. L'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité un peu plus tôt dans la journée. Les avocats de la défense sont à eux plaider une requalification des faits en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
La ville de Lyon a réquisitionné hier 8 agents sur le périmètre des écoles et des crèches pour faire fonctionner le chauffage dans les établissements scolaires. Les grévistes ont prolongé leur préavis jusqu'au 22 novembre. Ils manifesteront devant l'hôtel de ville aujourd'hui à l'occasion du conseil municipal. Ils réclament 200 euros d'augmentation. La moitié des cantines lyonnaises ne devraient pas fonctionner et 11 crèches seront fermées en raison du mouvement national lancé par la CGT. À Lyon, une manifestation est prévue à 11h30 au départ de la place Jean Massé. Le réseau TCL à Lyon ne sera pas impacté par le mouvement. Le jury a tranché. Après avoir écouté toutes les équipes candidates, la ville de Lyon a choisi Yann Arthus Bertrand pour l'exploitation du chalet du parc. L'équipe lauréate est solide. Elle s'appuie notamment sur un architecte de renom, Yous, et sur des partenaires financiers bien connus à Lyon comme la Banque des Territoires ou le Family Office Evolem. Le chalet du parc abritera dès 2026 des ateliers, des expositions, encore un restaurant anti-gaspi, la fabuleuse cantine. Jusqu'à 200 personnes pourront être servies. Pas question de faire un restaurant élitiste comme l'était l'ancien pavillon. Les tarifs seront adaptés à la situation sociale des gastronomes. La maison Gutenberg, initiateur de projets artistiques engagés, trouvera également sa place dans le projet. Le permis de construire doit être déposé en 2023. Les travaux débuteront en 2024 pour une livraison fin 2025. Le bail amphithéotique sera non pas de 25 mais de 50 ans. Déception du côté des deux autres équipes candidates, Urban Project et la Grainerie. Du côté de la Grainerie, l'équipe pilotée par l'architecte François Fontès et l'architecte du patrimoine Cécile Raymond affirme que le projet est toujours d'actualité, même s'il devra se trouver bien sûr une nouvelle adresse. La réaction de Marc Campesi, le porte-parole de la Grainerie.
On a eu affaire quand même à un candidat exceptionnel avec une grande reconnaissance médiatique, quelqu'un qui était bien entouré visiblement. Donc tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est souhaiter que dans l'intérêt des Lyonnais que ce projet ait longue vie, hein.
Est-ce que la grainerie pour autant est un projet qui disparaît?
Mais non, nous allons créer le premier événement de la grainerie hors les murs. Ça répond à un vrai besoin et ça répond aussi à des craintes de nous adultes, mais aussi de nos enfants sur que sera notre monde demain. Donc on anticipe, on veut anticiper, expérimenter la ville de demain. Les enjeux alimentaires, c'est bien évident. Les enjeux dont on parle très peu sur l'eau, que seront nos ressources en eau dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a un vrai point d'interrogation sur le sujet. Et bien entendu, on les sujets d'actualité que sont l'énergie et la pollution. Et donc on va pas renoncer parce que aujourd'hui, c'est un devoir de chaque citoyen de s'engager pour assurer un avenir plus serein à nos enfants, et puis aussi de les réjouir un peu, de leur montrer qu'il y a des lendemains possibles heureux.
Une délibération sur le projet de Yann Arthus-Bertrand sera présentée aujourd'hui en conseil municipal. La municipalité lyonnaise qui doit aussi voter une subvention de 14 000 euros en faveur de l'association SOS Méditerranée. Cette aide a pour but de financer une journée en mer du navire Ocean Viking pour mener des opérations de recherche et de sauvetage humanitaire. Lyon fait partie des 86 collectivités qui œuvrent en faveur de l'association. La municipalité précise que ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle accorde une subvention à SOS Méditerranée. La ville parle d'un devoir d'humanité. L'Ocean Viking, c'est ce bateau sur lequel plus de 200 migrants sont réfugiés. SOS Méditerranée a demandé à la France de lui assigner un port pour permettre aux migrants de débarquer.
Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
La fête des Lumières 2022 se déroulera du 8 au 11 décembre. 17 nouveaux artistes sont annoncés sur 30 œuvres présentes, car l'une des difficultés de cette fête récurrente, c'est justement de savoir se renouveler. Pour en savoir plus sur le programme, nous avons rencontré Julien Pavillard, le coordinateur de la Fête des Lumières.
On renouvelle en fait en réfléchissant à aller chercher autre chose, en cherchant d'autres types d'œuvres, d'autres artistes qui n'ont pas travaillé non plus sur la Fête des Lumières, et en allant voir des festivals, en allant se documenter un tout petit peu. C'est comme ça qu'on arrive à se renouveler, mais pour moi c'est quelque chose d'important, parce que je trouve que la Fête des Lumières, si elle ne se renouvelle pas, et finalement elle se tarit. Or la lumière, c'est un art, c'est de la culture, et donc on a besoin de voir aussi ce qui se fait ailleurs en France, mais surtout ailleurs à l'étranger, parce que la vision artistique de la lumière est totalement différente suivant les pays.
Alors justement, vous allez chercher où ces idées ?
Alors ces idées, on va les chercher dans notre réseau, et après dans des festivals qu'on visite à l'étranger, sur Instagram aussi, on récupère pas mal de choses, et puis c'est un tout petit monde, c'est comme tous les mondes, c'est-à-dire qu'en fait on est au courant aussi des dernières innovations, des derniers projets, d'autant plus que j'essaye beaucoup de travailler en coopération et plus en compétition avec les autres festivals. C'est-à-dire, je pense qu'on a tout à gagner aujourd'hui, à plus se mettre forcément en compétition avec les autres, et plutôt à réfléchir comment on peut travailler ensemble. Et ça, on essaye de le mener, et je le porte très fortement en ayant des contacts réguliers avec des festivals du monde entier. Par exemple, récemment, j'étais à Montréal, on travaillait avec Eindhoven, Adélaïde en Australie, pour pouvoir imaginer justement des projets, peut-être des projets communs d'ailleurs, qui puissent être créés, et en tout cas aussi avoir chacun des idées d'artistes qu'on peut donner à d'autres festivals en disant tiens, eux ils sont français, vous les connaissez pas forcément parce que nous on les a dans le viseur mais pas forcément vous, et on fait l'inverse, on essaie comme ça de se partager les informations. Et je pense qu'aujourd'hui cette coopération entre festivals, ça apporte une richesse supplémentaire et un confort aussi pour avoir de nouveaux projets.
Lyon est un laboratoire de la lumière aujourd'hui?
Oui, Lyon reste toujours un laboratoire de la lumière, et les artistes d'ailleurs le pensent, c'est vraiment important pour eux de venir à Lyon. Lyon crée des choses, et puis Lyon est une carte de visite, une sacrée carte de visite pour eux.
Alors on va visiter un petit peu la ville, terreau, des œuvres du musée qui vont sortir des murs. Comment ça va se passer ça?
Ça va être une œuvre à mon avis qui va beaucoup plaire aux gens, parce que c'est une œuvre qui est faite par une équipe qui connaît bien la projection d'image, l'équipe d'Inouk qui avait créé les Anouki qu'on a beaucoup vu à la Fête des Lumières et qui avait très bien marché. Ils vont développer une technique qui s'appelle le deepfake, où en fait ils vont faire parler les tableaux, ils vont les faire chanter. Pour le coup, c'est une œuvre qui est très humoristique, très entraînante, et je suis certain qu'on arrivera à créer une très bonne ambiance sur la place des terreaux.
Sur la gare Saint-Paul, on avait vu les Anouki il y a quelques années. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui vont s'exprimer.
Oui, on a un partenariat avec le festival Mapping des Hauts-de-France, et en fait on a des jeunes artistes qui vont créer, sous la houlette d'un artiste un peu plus connu qui s'appelle Romain Tardy, en fait des projets de lumière assez courts, des projets vidéo assez courts. Et pour nous c'est important parce que ça apporte aussi une certaine fraîcheur d'esprit en ayant des œuvres qui sont sont vraiment créés par des jeunes gens.
L'un des incontournables de la Fête des Lumières, c'est toujours la primatiale Saint-Jean. Comment vous allez cette fois-ci traiter ce beau monument ?
C'est un lieu qui est très important pour nous parce que c'est souvent le lieu d'innovation. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas, ils viennent chercher un peu les dernières innovations en mapping sur la place Saint-Jean. Et en fait, sur la cathédrale cette année, on a un artiste qui s'appelle Philippe Roca qui, lui, va travailler en ce qu'on appelle du mapping génératif. Et le mapping génératif, en fait, ça veut dire que cet artiste, Philippe Roca, qui est capable de dessiner parfaitement, est aussi capable de créer des lignes de code. Et c'est grâce à ces lignes de code, en fait, et à son sens artistique, qu'il va faire un mapping très doux autour de la notion de temps. Et en fait, il reprend une citation de Platon qui dit que le temps, c'est une image en mouvement de l'éternité. Et en fait, il part de ça pour pouvoir recréer sur la cathédrale Saint-Jean et ben, quelque chose de très doux, de très fluide et de très harmonieux. Et je pense que de nouveau, ce projet-là aussi sera quelque chose que les Lyonnais n'ont pas du tout l'habitude de voir. Ce sera une première pour Lyon. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, plaira aux Lyonnais.
La fontaine des Jacobins, c'est toujours un grand moment également. Cette fois-ci, on va avoir des étourneaux et pour une fois, on va les accepter plus facilement que ceux qui volent au-dessus de notre tête.
Oui, c'est grâce à l'équipe de Sweet Coupe, qui est un collectif anglais, qui effectivement va faire toute une installation assez importante d'ailleurs au niveau matériel pour avoir tout d'un coup une installation très poétique avec beaucoup de lumières qui vont changer. Et effectivement, c'est un peu l'idée du vol des étourneaux où en fait il y a un contrôle qui est fait qui est un contrôle décentralisé puisque chaque étourneau est autonome mais en même temps interagit avec l'autre. Et là, ça va être le même principe en lumière. Ça va être autonome, mais chaque lumière va interagir avec la suivante.
Le parc de la Tête d'Or, là, vous y avez pas avec le dos de la cuillère, 4 œuvres et 2 également autour du parc, c'est ça ?
Oui, en fait, on a 4 œuvres parce qu'on pense que le parc de la Tête d'Or est un lieu vraiment intéressant pour y passer une soirée. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est suffisamment important pour pouvoir déambuler en famille, en plus d'un cadre qui est magnifique, qui est souvent beaucoup plus calme que le centre-ville. Il y a moins de monde, même si c'est quand même très rempli. Et pour le coup, on a 4 projets, comme l'année dernière, dans le parc de la Tête d'Or. Et en sortant du parc de la Tête d'Or par l'allée Achille Lignon, donc en face du musée d'art contemporain, on aura une œuvre supplémentaire et on en aura encore une autre sur la route pour revenir en centre-ville sur le quai de Serbie. Et on aura aussi une œuvre dans Core Studio, qui sera un collectif de Lausanne, en Suisse.
Le bois de la colline de Fourvière, ça devient aussi un grand classique avec cette fois-ci un mariage de mapping et d'illustration.
Grâce au studio Becca et à Jérôme Rouvray, qui est un dessinateur bien connu à Lyon et qui va proposer effectivement une installation qui est vraiment destinée aux familles, qui est vraiment sympa à regarder et qui, je pense, qui devrait bien plaire aux gens parce que c'est une installation qui permettra de faire une redécouverte de la ville de Lyon et de ses alentours.
La bibliothèque qui fête ses 50 ans, l'hôpital Saint-Luc-Saint-Jean, c'est un anniversaire également, 20 ans. Comment vous avez associé ces deux institutions ?
En fait, elles sont revenues vers nous. Nous, on ouvre le maximum aux institutions en général et donc on va les voir, on les rencontre, on en parle, on les voit sur d'autres événements, à d'autres occasions. Et en fait, l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux maintenant. Et la bibliothèque municipale, effectivement, c'est une nouveauté. Et on est très heureux de ces collaborations. Évidemment, on travaille avec les SUB et il y aura encore d'autres choses l'année prochaine, très certainement. Mais on est très heureux de ces collaborations parce que ça permet d'ouvrir un peu le champ des différents lieux sur lesquels on peut travailler. Et pour le coup, on a des artistes qui peuvent imaginer d'autres choses sur ces lieux qui sont peut-être moins centraux, mais qui sont très visibles par les Lyonnais qui habitent à proximité ou pour la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, qui sortent de la gare de la Part-Dieu.
La bibliothèque de la Part-Dieu, c'est quoi, les années 70, c'est ça ?
Oui, c'est les 50 ans, donc on retombe vraiment dans les années 70 avec des motifs très colorés, un design graphique des années 70, beaucoup de lumière, un peu comme les lampes à lave, etc. Donc on retombe vraiment dans une esthétique des années 70 et ça va être très sympa, je pense. C'est vraiment les années disco et donc il y aura même des boules à facettes, il y aura tout un tas de choses qui font que, voilà, on donne un peu à cette bibliothèque un nouveau cachet en lui rappelant son âge.
Et sur l'hôpital, ce grand ensemble de verre ?
Alors c'est un grand ensemble de verre, mais qui est aussi un corridor en bas. Et en fait, l'artiste Emilia Guénard va pouvoir créer avec du laser des traits lumineux qui vont en fait pulser comme pulse un cœur. Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver comme ça à une pulsation lumineuse.
Toujours dans la décentralisation, hors du centre-ville, il y a aussi les SUB. Hein, c'était déjà le cas, je crois, l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci ? Je crois qu'il y a un bal lumière, c'est ça, qui se met en place ?
Oui, on essaie vraiment de mieux accueillir le public et d'être une fête plus chaleureuse. Parce qu'en fait, c'est une critique que j'avais, c'était que on sait bien qu'on a beaucoup de monde qui vient, c'est chaque année, mais on doit encore améliorer l'accueil, on doit encore améliorer l'ambiance de la Fête des Lumières. Et pour le coup, avec les SUB, on aura 4 soirées de danse avec la possibilité pour qui veut de venir danser avec 2 thématiques différentes. D'abord, saper comme jamais, les 2 premiers soirs, le jeudi, vendredi, avec évidemment ce qui fait référence à la sape congolaise, à toute l'histoire comme ça de l'Afrique et de ces gens qui s'habillent hyper bien pour pouvoir se montrer. Et puis les autres soirées, les 2 dernières soirées qui sont check, check, check avec le collectif AR et le Centre National de la Danse et de la Musique. Et pour le coup, on aura vraiment des ambiances de danse. On pourra venir pour s'amuser.
Dans les valeurs que vous défendez, il y a aussi le réemploi, pour terminer. Qu'est-ce que les Lyonnais peuvent donner pour la fête des Lumières?
Alors, ils peuvent donner leurs lampes, on serait ravis, parce qu'en fait, on a une installation sur la place Bellecour, qui est faite à partir de lampes récupérées, justement, qui sont après retravaillées par les artistes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de lampes pour pouvoir faire une belle installation en marquant dessus « I love light ». Et puis même, prochainement, vous pouvez me donner tout simplement vos anciens bidons de lessive, d'assouplissant, pourvu qu'ils soient transparents, parce qu'on a un artiste qui s'appelle Bibi, qui va avec les enfants des MJC, des écoles, principalement dans le 3e arrondissement, créer une guirlande lumineuse d'oiseaux, 300 oiseaux, et ces oiseaux seront visibles place Voltaire, pendant la fête des Lumières, et ensuite durant tout le mois de décembre, comme des illuminations de Noël.
Julien Pavillard, le coordinateur de la fête des Lumières, notez bien les dates du 8 au 11 décembre. Enfin, en basket, en Eurocoupe féminine, le match de la 3e journée de l'Eurocoupe entre l'Asvel et Brno, prévu ce jeudi à Madobonnet à 20h, n'aura pas lieu. L'équipe du Zabini Brno a averti la FIBA de plusieurs cas de Covid dans ses rangs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.